Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors, chers auditeurs de La Preuve par Z, je pense que vous avez reconnu la 40e symphonie de Mozart, n'est-ce pas ? Oui, mais pas dans la version traditionnelle. C'est qu'aujourd'hui, c'est le troisième et dernier volet de notre série d'émissions campanaires, Toutes cloches dehors. Une émission entièrement consacrée aux cloches. Mais oui, vous allez voir, c'est incroyablement varié. C'est donc aux États-Unis, en Caroline du Nord très exactement, que sont installés les 14 membres des Rowley Ringers, l'un des plus fameux ensembles de cloches à main et qui possède la plus grande collection du monde avec plus de 300 instruments. Un véritable orgue de cloches à main. C'est que les Américains sont particulièrement friands des cloches à main, comme en témoignent les 7000 ensembles membres de la très sérieuse Handbell Musicians of America. Dans un chœur de cloches à main, chaque exécutant peut jouer de 2 cloches, une par main, voire de 4 pour les plus habiles. Et comme chaque cloche ne produit qu'une seule note, je n'ose imaginer le nombre de répétitions pour obtenir une parfaite synchronisation, un peu comme si chaque touche d'un piano était actionnée par une personne différente. Vous voyez ce que je veux dire ? Un spectacle fascinant. Et associé à un orchestre et à un chœur, c'est encore plus impressionnant, comme vous allez pouvoir en juger grâce à cet arrangement du tube planétaire Carol of the Bells, ce chant de Noël du début du XXe siècle, lui-même adapté d'un très joli chant traditionnel ukrainien. Et voici que les cloches à main semblent vouloir faire danser aussi bien l'orchestre que les chœurs, tandis que nous nous laissons entraîner par le tournoiement des 4 notes d'un motif entêtant. Thank you. un chant traditionnel ukrainien devenu tube international, nous écoutions Carol of the Bells dans une version rutilante pour cloche à main, chœur et orchestre. Alors à l'opposé de cette fresque chorale et foisonnante, voici maintenant tout le mystère, la poésie, l'étrangeté solitaire et pittoresque d'une courte pièce pour piano d'Edouard Grieg, sobrement intitulée « Son de cloche ». Nous nous perdons dans le Jotunheimen, au sud-ouest de la Norvège et des Alpes scandinaves. On entend résonner au lointain les cloches des troupeaux, dont l'écho se perd dans la vallée. Merci à Mikhail Pletnev de faire si délicatement tintinabuler son instrument dans cette étonnante miniature « Son de cloche », un extrait des pièces lyriques pour piano d'Edouard Grieg. Le pouvoir des cloches est également évoqué dans l'opéra « L'Acmé » du compositeur français Léo Delibes. Je pense bien sûr à « L'air des clochettes », l'un des trois plus fameux airs de soprano coloratour du répertoire avec « La reine de la nuit de la flûte enchantée » et « La poupée des contes d'Hoffmann » de Jacques Offenbach. Donc nous voici dans la jungle indienne et la belle Lakmé nous raconte la légende de la fille du paria sauvant la vie de Vishnu en faisant tinter les clochettes de son bracelet pour le prévenir de la présence de bêtes sauvages. Et pour interpréter cette air des clochettes, j'ai choisi de vous faire entendre une version historique de 1955. Il s'agit de l'incomparable Mado Robin dont la carrière fut aussi brève qu'exceptionnelle puisqu'elle meurt en 1960 à l'âge de 41 ans alors qu'elle devait assurer trois semaines plus tard à l'Opéra Comique la 1500e représentation de l'Acmé.
Thank you. pleine de joie, et le vent se chante sur le bois. La jeune fille court et brave leur fureur.
Extraordinaire Mado Robin, cette soprano coloratour légendaire qui pouvait atteindre dans l'aigu le contre-contre-ré, et c'était l'air des clochettes du deuxième acte de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes. Mais pour moi, l'utilisation la plus saisissante des cloches à l'opéra se trouve au début du troisième acte de Tosca, le chef-d'œuvre de Puccini. Nous ne sommes plus dans une fosse d'orchestre, nous sommes au-dessus des toits de la ville éternelle. C'est le petit matin, la basilique Saint-Pierre de Rome se dessine à l'horizon, et les cloches semblent doucement dialoguer entre elles.
Thank you.
les cloches des églises de la capitale italienne sonnaient les matines, une saisissante scène d'opéra comme Puccini en a le secret. Nous écoutions le début du troisième acte de Tosca dans la version de Zubin Mehta et du New Philharmonia Orchestra. Alors on associe plutôt les sonorités des cloches à l'aigu, mais ce n'est pas le cas du compositeur élisabéthain William Byrd, qui à la fin du XVIe siècle a l'idée de construire une pièce entière sur deux notes graves alternées jouées par la main gauche. Tong, 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 tong. Et tout le génie du compositeur, c'est que pendant les 5 minutes que dure cette incroyable pièce pour clavecin, intitulée comme il se doit « The Bells », on ne s'ennuie pas une seule seconde, comme vous allez tout de suite pouvoir le constater.
Thank you.
le claveciniste australien Anthony Romaniuk interprétait The Bells de William Byrd, l'une des 125 pièces pour clavier de l'un des plus grands compositeurs anglais de la fin de la Renaissance. Alors on a tendance à considérer Léopold Mozart comme un père tyrannique ayant profité du génie de son fils pour l'exhiber aux quatre coins de l'Europe. Eh bien j'aimerais profiter de cette preuve par Z pour le réhabiliter. Rappelez qu'il fut un très grand pédagogue, auteur notamment d'une méthode pour violon dont la précision, l'érudition et l'exhaustivité sont aujourd'hui encore considérées comme une source précieuse pour l'interprétation du style classique. Quant à ces quelques 550 compositions instrumentales et vocales, elles ne sont pas dénuées d'intérêt. Et je vous conseille vivement de faire un tour du côté de sa musique religieuse. Dans un registre plus léger, Léopold s'était fait le spécialiste de l'utilisation d'instruments insolites. Apo et crécelle dans la symphonie des jouets, coup de fusil dans la symphonie de chasse, cor des Alpes dans sa symphonie pastorale, vielle à roue dans la suite du mariage paysan. On joue encore volontiers sa promenade musicale en traîneau. Alors vous me voyez venir, sur les traîneaux, il y a des grelots. Et Léopold s'est bien sûr empressé d'intégrer l'instrument dans sa partition. Une rafraîchissante promenade musicale en traîneau signée Léopold Mozart en compagnie de l'orchestre de chambre de Berlin sous la direction d'Helmut Kohr. Alors je n'ai jamais été très doué pour les dates, mais enfin 1830 avec 1515 et 1789, ça, je l'ai bien en tête. C'est que 1830, c'est l'année où Berlioz compose sa géniale symphonie fantastique qui marque le début du romantisme français. Pour l'exécution de cette extraordinaire musique à programme, Berlioz réclame l'utilisation de vraies cloches d'église. Et c'est pourquoi certains orchestres font l'acquisition de deux énormes cloches en bronze, d'environ 300 et 600 kilos chacune, deux cloches qui ne servent pratiquement que pour le dernier mouvement de la symphonie. Une nuit de sabbat, où se mêlent bruits étranges, éclats de rire et gémissements, jusqu'au célèbre coup de cloche grave qui donne le coup d'envoi d'une véritable orgie diabolique sur le thème ancien du Dies Irae de l'Apocalypse. Le déchaînement final du songe d'une nuit de sabbat, cinquième et dernier mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz, dans l'interprétation de référence de 1955 de l'orchestre symphonique de Boston et de son mythique directeur musical Charles Munch. Alors pour nous remettre de nos émotions, je vous propose un peu de douceur avec cette véritable rareté. Une mélodie de jeunesse de Debussy intitulée « Les cloches », typique de la première manière du compositeur qui vient tout juste de remporter le premier Grand Prix de Rome. Les feuilles s'ouvraient sur le bord des branches, délicatement. Les cloches tintaient, légères et franches, dans le ciel clément. Ces cloches parlaient d'heureuses années, et dans le grand bois semblaient reverdir les feuilles fanées des jours d'autrefois.
Les feuilles s'ouvrait sur le bord des branches délicatement. Les cloches tintaient légères et franches dans le ciel clément. Rythmique et fervent comme une antillienne, ce lointain appel me remémorait la blancheur chrétienne des fleurs de d'heureuses années. Et dans le grand bois semblait reverdir les feuilles fanées des jours d'autre.
La merveilleuse voix mellifluée du baryton Gabriel Baquier planait au-dessus du léger tintement du piano de Jean Laforge. Nous écoutions « Les cloches », mélodie de jeunesse de Claude Debussy, composée en 1886 sur un texte de Paul Bourget. C'est l'époque où Robert Plankett remporte le plus grand triomphe de sa carrière avec « Les cloches de Corneville », une opérette écrite afin de remplacer à l'affiche un ouvrage d'Offenbach qui n'avait pas eu de succès. D'abord méprisée par les critiques, l'œuvre de Plankett est programmée dans divers théâtres parisiens, puis à Londres, Vienne et New York. Et en 1889, soit 12 ans après la première, les cloches de Corneville dépassent les 1000 représentations. L'œuvre foisonne d'air facilement mémorisable, et je suis sûr qu'après avoir écouté l'extrait qui va suivre, il vous trottera un moment dans la tête. Nous sommes au premier acte, lorsque Germaine explique aux habitants de Corneville, en Normandie, que le château de la ville est hanté et que les cloches de la chapelle ne retentiront de nouveau qu'au retour de son propriétaire légitime. Un carillon qui se tait, c'est toujours triste, n'est-ce pas? Car comme le déplore Germaine, depuis qu'il se tait, la ville est moins joyeuse, depuis qu'il se tait, s'éloignent les amours.
Qui trouble notre esprit. De nos bons seigneurs sont les nobles ancêtres qui dans ce château ressuscitent la nuit. Ils voudraient revoir leurs héritiers peut-être, et qu'au de l'exil nos maîtres reviendront. Par un revenant de garde à la fenêtre, on dit qu'à l'instant les cloches sonneront. Tic 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 ton, sonne 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 don. Tic 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 ton, sonne sonne don joyeux carillon.
Sonne, sonne.
Tic 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 don, sonne 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 don. Tic 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 don, sonne 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 don, joyeux carillon.
Tic 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 don, sonne 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 carillon. Tic 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 don, sonne 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 carillon.
Il ne sonne pas au jour de nos défaites, il ne sonnait pas dans les temps malheureux, mais comme il sonnait au jour jours de grandes fêtes où qu'on s'unissait de jeunes amoureux. Depuis qu'il se tait, la ville est moins joyeuse. Depuis qu'il se tait, s'éloignent les amours. Ce château nous cause une frayeur affreuse. Et voilà pourquoi nous répétons toujours.
Et voilà pourquoi nous répétons toujours.
Dic, 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 don. Sonne, 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 don. Dic, 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 don. Sonne, sonne, don, joyeux carillon.
Sonne, sonne.
Dig, 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 don. Sonne, 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 don. Dig, 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 don. Sonne, 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 don. Joyeux carillon.
Dig, dig, dig.
Digue, 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 don, sonne, sonne, don, joyeux carillon. C'était l'un des airs les plus fameux des cloches de Corneville, une opérette qui aura assuré à Robert Plankett sa renommée dès l'âge de 29 ans. Et pour la petite histoire, après ce succès retentissant, le compositeur s'installera à Merville, près de Cabourg, dans une villa qu'il baptisera Les Cloches, évidemment. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons entendu le final du concerto pour violon La Campanella de Paganini, ainsi surnommé en raison des interventions malicieuses d'une petite clochette en fa dièse. Plusieurs auditeurs m'ont réclamé la version pour piano de Liszt, et je ne vois vraiment aucune raison de ne pas leur faire ce plaisir. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple adaptation pour piano de la pièce de Paganini, mais d'une composition originale, d'une redoutable virtuosité. Sans aucun doute, l'une des études les plus difficiles du répertoire. Un Liszt flamboyant interprété par la grande France Clida, qui lorsqu'elle joue cette étude me donne l'impression de posséder véritablement une troisième main. Bon, je dois confesser que j'ai beaucoup souffert sur cette étude quand j'étais au conservatoire, au point que je ne suis pas sûr de rester dans le studio pendant la diffusion de cette pièce.
Thank you.
pari parfaitement réussi par Liszt, celui de faire aussi difficile pour le piano que Paganini pour le violon. C'était la version pianistique de la Campanella par l'extraordinaire Franz Klida, tellement convaincante dans ce répertoire qu'on l'a surnommée de son vivant Madame Liszt. Et maintenant, selon une tradition immuable qui remonte à la plus haute antiquité égyptienne, terminons notre preuve par Z hebdomadaire par une chanson, en l'occurrence une chanson écrite par Léo Ferré en 1953. Un extrait de l'album Paris Canaille qui contient notamment Monsieur William et Sous le pont Mirabeau, mais aussi Les cloches de Notre-Dame, une chanson sociale qui reproche vivement à celle-ci de ne sonner que pour les riches. Cloches de Notre-Dame à Paris, cessez vos glas et vos carillons et penchez-vous un peu du côté d'Aubervilliers ou des Lilas et chantez le bonheur de ceux qui n'en auront jamais.
Cloches de Notre-Dame à Paris, qui sonnez les glas et les carillons, qui sonnez la joie et la peine. Cloches de Notre-Dame à Paris, vous êtes vieille comme le monde, vous êtes pauvre comme la Seine. Vous êtes tendre comme le bronze. Cloches de Notre-Dame à Paris, cessez vos glas et vos carillons et penchez-vous un peu du côté d'Aubervilliers ou des Lilas et chantez le bonheur de ceux qui n'en auront jamais. Cloches de Notre-Dame à Paris, qui sonnez chaque mort d'évêque, sonnez un jour, une nuit au hasard, comme ça, toute seule. Ça mettra les gens bas de leur lit douillet à Paris, et ça fera peut-être peur aux imbéciles.
C'est elle qui chante mes chansons avec la plus grande conviction. Je la préfère à toutes les autres, disait de Catherine Sauvage Léo Ferré. Et c'est vrai qu'elle est inoubliable dans cette reprise des cloches de Notre-Dame, chanson dont la singularité est renforcée par la froideur glaçante de l'arrangement pour cuivre de Michel Legrand. Et si, comme Catherine Sauvage, l'envie vous prenait de vous adresser à des cloches d'église, pourquoi ne pas les appeler par leur prénom, puisque la plupart sont baptisées? Tiens, et d'ailleurs, une cloche, c'est une fille ou un garçon? Pour Notre-Dame de Reims, c'est une fille, Charlotte, comme celle de Notre-Dame de la Garde à Marseille qui porte le nom de Marie-Joséphine. Tandis que Notre-Dame de Paris accueille un garçon, Emmanuel, dont les parrains ne sont autres que Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche. Il s'agit de la deuxième plus grande cloche de France après celle du Sacré-Cœur, un bourdon de 1680 qui nous fait entendre un beau fa dièse grave. Précisons qu'Emmanuel n'a heureusement pas souffert du terrible incendie de 2019 et en sa compagnie, refermons ce troisième et dernier volet de notre triptyque intitulé « Le langage des cloches ». C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Hein Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Henri Bérec. À la semaine prochaine.